France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver pour cette émission qui vient ouvrir cette série qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat exceptionnel entre la Fondation pour la Recherche Médicale et France Musique, et en particulier notre émission, le Van Beethoven. À ce titre, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain Marc Lévy. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis très honorée de vous avoir à mes côtés. Vous êtes l'un des auteurs français contemporains les plus lus dans le monde. Vos romans ont été traduits dans 49 langues. Vous êtes l'un des grands parrains de la Fondation pour la Recherche Médicale. Et ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes également un passionné de musique. Comment est née cette passion pour la musique, Marc Lévy ?
Elle est née, j'étais enfant et j'avais un problème de motricité quand j'étais enfant qui faisait que mes deux mains étaient liées, tout ce que ma main droite faisait, ma main gauche le faisait. Et puis j'ai un jour, en passant devant la télévision, j'ai vu un pianiste, un concertiste très important de l'époque qui s'appelait Zifra, jouer la mazurka en opus 27 de Chopin. Et j'ai pris en voyant cet homme qui avait des mains assez épaisses et en voyant la vélocité de ses doigts et la virtuosité de ses doigts, j'ai pris conscience
que c'était possible en fait.
Non, mais qu'il y avait une vraie différence entre nous. Enfin, que voilà. Et donc je suis allé voir mes parents. Je leur ai dit je veux jouer du piano. Ce qui revenait à peu près, ce qui était un cauchemar pour mes parents évidemment, parce que bon, compte tenu de ce léger déficit, c'était pas envisageable. Mais très courageusement, ils m'ont dit bon, d'accord, et ils m'ont mis au piano. Et je dois dire que ça a changé ma vie, puisque c'est à force de travailler au piano que j'ai dissocié mes mains.
Et alors, quels sont vos premiers souvenirs musicaux, Marc Lévy ? Quelles sont les premières œuvres que vous avez travaillées ?
Je ne sais pas où la mémoire, jusqu'où la mémoire va, mais je me souviens de la Passacaille de Handel, qui avait failli, je pense que toute ma famille a failli se suicider à force de m'entendre la répéter. La Passacaille, ça reste le premier morceau dont je me souviens, oui, complet, que je me souviens d'avoir joué au piano. Le Clair de Lune de Debussy, qui a été un morceau qui a aussi joué, enfin, est très important dans ma formation, enfin, dans le cadre de mes études musicales. Et puis, j'avais une professeure de musique très avant-gardiste pour l'époque, parce qu'il n'était pas, à l'époque, enfin, quand j'étais enfant, il n'était pas aussi bien considéré que maintenant, Satie. Qui me correspondait très bien parce que ça demandait un jeu à la fois lent, donc qui s'adaptait parfaitement à mes mains, en tout cas à ce que mes mains étaient capables de faire, et en même temps qui demandait une précision dans la sensibilité du frapper sur les touches. Donc Satie a beaucoup compté pour moi.
Et Beethoven, dont on célèbre les 250 ans de la naissance cette année, en particulier dans cette émission. Marc Lévy, quelles sont les premières œuvres de lui qui vous ont marqué ?
Surtout, Beethoven, c'est mon premier grand four. Ça a été une grande humiliation, parce que j'étais hyper traqueur et très timide. Et la première fois que... je parle de ça, je suis enfant. Et la première fois qu'on doit jouer avec le petit, dans le cadre du petit conservatoire où j'étudiais, et on joue devant les parents, donc il y a une petite assemblée, comme ça, il y a une trentaine de parents dans la salle. Il y a un piano et donc moi j'entre sur la scène et j'ai un trac fou et donc je m'approche de jouer au devant de la scène et avec une tête d'enterrement pas possible mais vraiment avec l'air un air d'une sinistrose absolue, je leur dis je vais vous interpréter Ode à la joie. Il y a eu une seconde de silence, la salle a éclaté de rire, j'ai pas du tout compris pourquoi, ça m'a hyper vexé.
Alors si je vous dis qu'on va commencer cette émission avec du Beethoven, en particulier mais avec le troisième mouvement de sa 17e sonate, vous validez Marc Lévy ?
C'est un très bon début. Thank you.
Allegretto final de la 17e sonate en ré mineur de Beethoven qui aurait été écrit à Heiligenstadt dans la banlieue de Vienne au début de l'été 1802. Certains disent qu'il était écrit d'après le galop d'un cheval qui passait sous les fenêtres de Beethoven. D'autres pensent que Beethoven voulait donner une signification à cette œuvre. Lorsqu'on l'avait interrogé sur la signification de cette 17e sonate, il avait répondu « Lisez la tempête de Shakespeare ». Marc Lévy, de la même manière qu'un ouvrage littéraire peut inspirer un compositeur, est-ce qu'une œuvre musicale peut inspirer l'écriture, votre écriture en particulier ?
Ah oui, énormément. La musique, c'est un... C'est une route. Moi, quand j'écris, il y a deux mondes. Vraiment, il y a le monde du dedans et le monde du dehors. Pour moi, partir en écriture, c'est une grande plongée en écriture. C'est comme le grand bleu. Et la musique, c'est une incroyable gueuse. C'est cette chose absolument magique qui est capable de vous emmener d'un état conscient dans le monde du réel et de vous emmener... Mais vraiment comme si vous preniez un train, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'écrire un chapitre triste, j'ai tout un répertoire de musique et c'est comme si je montais dans un train pour la tristesse. Et si j'ai besoin au contraire...
Quelles sont vos œuvres, justement, vos œuvres chéries, votre répertoire pour la tristesse, Marc Lévy?
J'allais presque, pardonnez-moi si je dis ça au second degré, mais par exemple le concerto de Samuel Barber, c'est comme un shoot, c'est immédiat. Mmh. Vous voyez, on n'est pas dans le registre de Beethoven, mais c'est la transposition, c'est la façon dont ça vous prend immédiatement. Alors Barber, voilà, c'est un exemple qui me vient tout de suite. Mais ça, par exemple, c'est typiquement ce que nous venons d'écouter, c'est typiquement une œuvre qui est propice à l'écriture, d'abord parce qu'il y a un rythme et qu'il existe un rythme entre le rythme de la musique et le rythme du clavier. C'est incroyable, vous voyez, comme surtout pour quelqu'un qui a fait du piano, donc il y a une transposition immédiate de la vitesse à laquelle on écrit par rapport à la vitesse de la musique qu'on écoute.
Vous avez joué cette œuvre, Marc Lévy, oui. Vous me disiez hors antenne.
Il y a très longtemps.
Est-ce que vous arrivez à écouter de la musique en écrivant ou est-ce que vous êtes totalement absorbé par la
Ah non,
musique?
j'écoute, je n'écris qu'en écoutant de la musique.
Vous n'écrivez qu'en écoutant de la musique. Est-ce que vous associez certains de vos romans à une œuvre en particulier ou pas particulièrement?
Chaque roman a sa playlist.
D'accord. La playlist du dernier roman, par exemple, à Marc Lévy.
Il y a, compte, enfin, en fonction de, sa nature, de ce qu'il raconte, il y a peu de musique classique dedans, dans cette playlist. Je pourrais vous donner des titres, mais qui ne correspondent pas du tout à l'humeur de cette émission. Mais je la regardais ce matin et je m'apercevais qu'il y avait quand même 105 titres. Donc l'écriture de ce roman correspondait à écouter 105 œuvres musicales ont accompagné l'écriture de ce roman.
Une autre pièce que vous avez choisie pour nous, Marc Lévy, c'est le 4e concerto pour piano en sol majeur de Beethoven. On va écouter le final de cette œuvre. Qu'est-ce qui vous inspire ce final? Il est tellement solaire, tellement joyeux, tellement...
Mais ça.
Voilà.
Thank you.
Voilà une œuvre souriante qui ne représente pas du tout l'image que l'on se fait de Beethoven, me disiez-vous, Marc Lévy, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai que c'est une œuvre dans laquelle il y a une joie de vivre. Il y a, enfin, j'entends moi, par exemple, beaucoup d'humour dans cette œuvre. Mm. Et les représentations de Beethoven sont toujours graves et toujours tristes. On attribue à Beethoven cette gravité, enfin, qui est probablement liée aussi à sa surdité, à la difficulté de sa vie. Mais je trouve que l'homme qui a écrit ça est un homme, voilà, qui nous parle de joie de vivre, qui nous parle d'élan, qui nous parle de fougue et qui nous en parle aussi avec beaucoup d'humour.
En tout cas, c'était le final, le rondo final du 4e concerto pour piano en sol majeur de Beethoven. Donc, Emmanuel Ax au piano, l'Orchestre Symphonique de San Francisco, dirigé par Michael Tilson Thomas.
Le Van Beethoven. Aurélie Moreau, France Musique.
Louis Schlosser, un jeune homme de 23 ans, futur maître de chapelle et ami de notre cher Beethoven, lui avait demandé comment il parvenait à trouver le juste. Et à cela, Beethoven avait répondu « Je porte mes idées en moi longtemps, souvent très longtemps, avant de les écrire. Je change beaucoup de choses, je rejette et j'essaie de nouveau tant qu'il le faut jusqu'à ce que je sois satisfait. Je ne peux pas vous dire avec certitude où je prends mes idées », avait poursuivi Beethoven. « Elles surgissent sans avoir été évoquées immédiatement. Je pourrais les saisir avec les mains, dans la libre nature, dans la forêt, en promenade, dans le calme de la nuit à l'aurore. Ce qui les suscite, ce sont des dispositions d'esprit qui s'expriment avec des mots chez le poète et qui s'expriment avec moi par des sons résonnants, bruissants, tempêtants, jusqu'à ce qu'enfin il soit en moi de la musique. Marc Lévy, comment vous situez-vous par rapport au processus de création d'un compositeur comme Beethoven, que ce processus que je viens de décrire? Comment les idées viennent chez vous, Marc Lévy?
J'allais dire, c'est horriblement prétentieux, je vais vous dire comme lui. Mais non, je veux dire que j'en suis tout ce que vous venez de lire. Enfin, pour moi, c'est exactement pareil. La seule impression que j'ai, qui n'est pas une certitude, c'est que les idées me viennent des petites choses de la vie qui ne sont pas petites du tout. L'idée, elle vient du vent, elle vient d'un bruit, elle vient de la musique, elle vient d'un regard que vous croisez. Je vous dirais que j'ai toujours attaché et j'ai toujours été très touché par les regards. Je pense que derrière, avec les mots, on peut mentir. On peut faire rire, on peut raconter ce qu'on veut, mais c'est très difficile de mentir avec les yeux. C'est pratiquement impossible. Enfin, les grands comédiens y arrivent, bien sûr, ils savent le faire. Mais dans l'instant, dans la vérité d'un instant, il y a une vérité dans les yeux qui trahit pas. Et donc, j'ai toujours été fasciné par les regards. C'est très difficile, d'ailleurs, de regarder un regard sans être à la fois indiscret ou parfois sans mettre... Vous voyez, si par exemple, moi, pour fabriquer mes personnages, pour écrire, j'adore observer, j'aime pas beaucoup parler, j'adore regarder. Mais c'est vrai qu'on vit dans une société aujourd'hui où si vous observez un homme ou une femme et que son regard vous fascine et que vous l'observez justement parce que c'est une personne et que finalement observer un être humain, c'est la plus belle des choses qu'il y a à observer. C'est assez délicat parce que si la personne se sent observée, il y a tout de suite une méfiance. Vous voyez, pourquoi vous me regardez? Ce qui est paradoxal, parce que finalement, vous avez juste envie de répondre spontanément, bah parce que je trouve que votre personne est, enfin, humainement belle, vous voyez, que ça m'intéresse, ou parce que je trouve que votre différence est passionnante, parce que, alors, il n'y a que le peintre qui peut sentir un moindre frais, vous voyez, qui peut dire, bah parce que je suis peintre. Alors donc, là, ça s'explique, ou je suis sculpteur. Donc voilà, l'inspiration, les idées, les histoires, elles viennent de ce que disent les regards, mais pas les mots. Des attitudes. Les personnages naissent de mille et un gestes que vous regardez, parce qu'il y a tous ces petits gestes que nous faisons et qui ne sont pas des petits gestes du tout.
Vous les notez, Marc Lévy ? Vous avez incarné toujours avec vous, à
non.
portée de main ?
Non, parce que pour moi, je me suis toujours dit que les noter, c'était trahir c'était trahir une forme d'authenticité. Ce qui vous touche, vous ne l'oubliez pas. Vous voyez, ce qui vous touche vraiment, alors je parle pas de toucher simplement dans la gravité. Parfois, il y a des postures qui vous touchent dans l'humour, dans la drôlerie, dans la fantaisie, dans la joie. Mais je crois que ce qui compte, on ne l'oublie pas.
On va écouter justement une œuvre qui vous touche, qui moi aussi me touche beaucoup. Beethoven avait écrit sur le manuscrit de sa Missa Solemnis, venue du cœur, puisse-t-elle retourner au cœur? Cette pièce, elle vous va droit au cœur, si je puis dire, Marc Lévy.
Absolument.
Un extrait du Kyrie Eleison de la Missa Solemnis de Beethoven par la soprano Eileen Farrell, la contralto Carol Smith, le ténor Richard Lewis et la basse Kim Bohr, le chœur de Westminster et l'orchestre philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein. L'écrivain Marc Lévy est avec nous jusqu'à 18h. Marc Lévy qui est l'un des grands parrains de la Fondation pour la Recherche Médicale. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette mission, Marc Lévy ?
Je dirais précisément la mission de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Alors, quelle est sa mission, en quelques mots ?
Sa mission, c'est de soutenir tous les travaux en recherche, en matière de recherche médicale. Et c'est ce qui m'a passionné avec cette fondation. C'est qu'elle ne se limite pas à un domaine de la médecine, mais à tous les domaines de la médecine. Et comme le corps humain n'est pas un, mais qu'il est source de multiples désordres, de multiples maladies, cette approche horizontale et cette approche, je veux dire, globale, m'a toujours passionné, fasciné. Ensuite, c'est une fondation qui finance et qui supporte les plus beaux projets médicaux, à la fois les plus prometteurs, mais aussi les plus ingénieux, les plus intelligents. J'ai toujours été fasciné par la rigueur du processus de validation des projets de recherche. C'est aussi une fondation extrêmement jeune dans sa façon d'agir, c'est-à-dire qu'elle a une réactivité, une capacité réactive qui est incroyable, qui soutient des projets, à la fois une recherche de fond, mais aussi une recherche d'urgence et une recherche... donc ça, je trouve ça absolument passionnant. Bref, quand j'ai eu la chance de rencontrer cette fondation, j'ai été emporté par l'intelligence, l'ingéniosité et l'efficacité, vraiment la vraie efficacité des travaux supportés, enfin du processus de la façon dont fonctionne cette association, cette fondation, pardonnez-moi, et de l'efficacité, enfin de la façon dont, pardon, excusez-moi, je perds mes mots, c'est un peu la fatigue, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, quand on donne de l'argent à cette fondation, pardonnez-moi si je dis ça, mais appelons un chat, l'efficacité de cet argent qui finance une recherche, ça m'a tout de suite...
C'est un projet qui vous touche et qui vous tient.
Voilà, exactement. Oui, j'en bafouille.
Si on a décidé de faire ce partenariat justement entre la Fondation pour la Recherche Médicale et cette émission Le Van Beethoven qui célèbre les 250 ans de la naissance du compositeur, c'est aussi parce que ce compositeur était atteint de divers maux, MAUX. Comment on fait pour donner pour la Fondation pour la Recherche Médicale, Marc Lévy ? On se rend sur le site,
De la FRM,
ouais, frm.org.
Alors il y a des opérations au cours de l'année, des opérations ponctuelles pour lesquelles il y a des codes SMS, mais là vraiment on va sur le site de la Fondation FRM et on donne. Mais j'ai vraiment envie de dire donner parce qu'en fait c'est très simple, quand on donne à la FRM, on donne pour soi. C'est aussi simple que ça, on donne pour soi. Il y a des travaux, la FRM soutient des travaux de recherche, par exemple, pour toutes les maladies dégénératrices cérébrales et la maladie d'Alzheimer. Et ce sont des recherches qui sont considérablement importantes, si ce n'est pour nous, mais pour l'avenir et pour le futur de nos enfants. Parce qu'ils vieilliront à leur tour. La FRM, je lisais dans un bulletin de la FRM, l'avancement des travaux faits par les chercheurs soutenus par les FRM dans le cadre du Covid, dans un délai aussi rapide, c'est extraordinaire.
Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est important de donner donc, sur le site de la Fondation pour la Recherche Médicale, frm.org. On va revenir à la musique, un peu de Gustav Mahler.
Mais oui.
On va écouter les dernières pages de sa troisième symphonie, la plus longue des symphonies de Mahler, la deuxième symphonie la plus longue de tout le répertoire symphonique. Pourquoi avez-vous eu envie de nous faire partager cette œuvre intense et ô combien sublime, Marc Lévy ?
Vous venez de le dire, parce qu'elle est intense et ô combien sublime. Puis, en fait, j'ai choisi un peu égoïstement dans cette sélection des œuvres qui ont marqué des moments de ma vie, des œuvres qui ont changé des moments de ma vie, ou des œuvres qui m'ont permis parfois d'avancer dans la vie.
Un final lumineux qui vient achever ce chef-d'œuvre, conclusion de la troisième symphonie de Gustav Mahler, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Claudio Abbado. Mahler disait que c'était un hymne à la nature et à la création. Marc Lévy, vous êtes d'accord visiblement avec cette phrase. Vous vous souvenez de la... Mais vous m'avez décrit exactement ça en m'expliquant, en me racontant tout à l'heure comment, ce que vous aviez ressenti quand vous avez entendu cette œuvre pour la première fois.
Oui, la première fois, j'avais l'impression de... J'avais l'impression d'assister, enfin, quand on ferme les yeux et que la musique provoque en vous des images, j'avais l'impression d'assister à la naissance de la forêt, mais pas à la naissance de la forêt, c'est-à-dire la découverte, vous voyez, la création, divine ou pas d'ailleurs, de la forêt, avec ce début de symphonie très lent. Comme.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Marc Lévy, voulez-vous bien nous parler un peu de votre dernier roman, C'est arrivé la nuit, premier tome de la série 9, roman paru le 29 septembre dernier. Que signifie le nombre 9, Marc Lévy ?
C'est le nombre de personnages qui font avancer l'histoire. Et en fait, c'est aussi le nom d'un groupe qui s'appelle le groupe 9. Et qui sont 9 résistants des temps modernes. 9 hors la loi, mais qui œuvrent pour le bien et qui, grâce à un talent particulier qui est celui du hack, ce qu'on appelle le hack, ont décidé de s'attaquer à la vilaine du monde et surtout ont décidé de s'attaquer aux puissants qui abusent de leur puissance, à la corruption, à la grande criminalité au col blanc et à ceux qui sont en train de déconstruire les démocraties pour en tirer profit et avantage.
Dans votre avant-dernier roman, Marc Lévy, Ghost in Love, il était beaucoup question de musique. Thomas, votre héros, devait se produire dans le deuxième concerto de Rachmaninov. Est-ce que vous allez écrire un jour un nouvel ouvrage aussi émaillé de références musicales, Marc Lévy ?
Alors, une autre idée du bonheur était aussi un roman émaillé de références musicales, mais qui était des références musicales dans le monde du blues, plus que dans le monde de la musique classique. J'ai pris énormément de plaisir en écrivant Ghost in Love parce qu'avoir pour personnage principal un concertiste, c'était marier deux passions et donc ça a été et puis tout cet univers parce qu'évidemment dans le roman on se promenait dans les salles de concert, on se promenait dans les coulisses des salles de concert, dans les salles de répétition. Oui, j'y reviendrai sûrement. C'est un décor que j'aime, donc j'aurais forcément envie de, non pas d'y tourner, mais d'y réécrire.
L'écriture, c'est un peu de la musique, dans le sens où il faut du rythme, une histoire, un dénouement, quelque chose qui...
Oui, c'est une partition. Et puis, qu'il y a vraiment des modes opératoires et conceptuels qui sont parallèles. La musique, c'est comment avec des notes on crée une émotion, comment avec des notes on réussit à faire en sorte que quelqu'un se crée une histoire dans la tête ou revive sa propre histoire. Et finalement, la musique des mots, c'est comment est-ce qu'avec des mots on crée dans la tête d'un lecteur des images, comment est-ce qu'on fait naître des personnages, comment est-ce qu'on les fait vivre et pourquoi. Ce mystère qui fait que certains romans refermés, des personnages de fiction sont entrés dans notre vie et ne nous quitteront jamais.
Sibelius, justement, sa deuxième symphonie pour vous faire voyager, pour faire voyager nos auditeurs parmi les paysages finlandais. Vos déplacements, vos voyages sont des sources d'inspiration, Marc Lévy ?
Énormément. Pour ce que je vous disais tout à l'heure, le doux mariage des paysages, des regards, des visages, des gens, le bonheur, c'est les autres.
Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous sur France Musique, Marc Lévy.
Merci mille fois.
Thank you.
Allegretto, premier mouvement de la deuxième symphonie en ré majeur de Jean Sibelius, que l'on appelle parfois sa symphonie italienne, car elle a été commencée en Italie. L'orchestre du Minnesota était dirigé par Osmo Wenske. Grand merci à toute l'équipe du Van Beethoven, Cécile Bonnet des Claustres pour la préparation, Louise Loubrieux pour la réalisation et Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son.
À réécouter sur francemusique.fr.